France Culture, les romans qui ont changé le monde, Mathias Sénard.
Les romans changent-ils le monde ? Pendant deux semaines, nous explorons 10 œuvres dont on peut assurer qu'elles ont changé quelque chose à la littérature et au 20e, voire au 21e siècle, en compagnie d'autrices et d'auteurs, de spécialistes et de spécialistes de la littérature d'hier et d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage estival dans les romans qui ont changé le monde en 1960, année de l'achèvement de Vie et Destin, chef-d'œuvre de Vassili Grossman, auteur juif soviétique né à Berditchev en 1905 et mort d'un cancer en 1964, peu de temps après que son chef-d'œuvre, Vie et Destin, est saisi par le KGB. Vie et Destin, c'est certes un roman de guerre, situé autour de la bataille de Stalingrad entre 1942 et 1943, mais c'est aussi le récit de deux totalitarismes affrontés, le face-à-face de deux formes de destruction de l'humanité. Paru pour la première fois en 1980 aux éditions L'Âge d'Homme et traduit en français par Alexis Berelovitch et Anne Coldefy-Foucard, Vie et Destin, c'est aussi le destin d'un ouvrage séquestré par la censure pendant près de 20 ans et miraculeusement sauvé. Pour en parler, nous avons la chance de compter sur la présence de trois éminents grossmaniens et trois éminences grossmaniennes, j'ai nommé Yaël Pachet, Luba Jorgensen et Olivier Rollin. Mais commençons par écouter un extrait de Vie et Destin, un extrait qui se situe au début du texte, pour bien en comprendre immédiatement les enjeux, Vie et Destin de Vassili Grossman, lu par la comédienne Élodie Hubert.
Dans le camp de concentration allemand, Mikhail Sidorovitch Mostoïevski eut l'occasion, pour la première fois depuis le deuxième congrès du Comintern, d'utiliser sa connaissance des langues étrangères. Avant-guerre, à Léningrad, les occasions de parler à des étrangers étaient rares. Il se souvenait maintenant de ses années d'émigration à Londres et à Genève, où dans les milieux révolutionnaires, on parlait, discutait, chantait dans presque toutes les langues d'Europe. Son voisin de Chali, un prêtre italien du nom de Guardi avait annoncé à Mostovskoï que la population du camp comptait 56 nationalités. Le sort, le teint du visage, la tenue, la démarche traînante, la soupe à base de rutabaga et de sagou artificiel que les détenus russes avaient surnommé « œil de poisson », tout cela était commun aux dizaines de milliers de personnes qui habitaient les baraquements du camp. Pour le commandement du camp, les détenus se distinguaient par leur numéro et par la couleur de la bande de tissu cousue à leur veste. Rouge pour les politiques, noir pour les saboteurs, verte pour les voleurs et les assassins.
Bonjour Yaël Pachet.
Bonjour.
Yaël Pachet, vous êtes écrivaine, autrice de romans. Votre dernier ouvrage est paru aux éditions Fayard en 2019 et s'intitule « Le peuple de mon père ». Bonjour Olivier Rollin.
Bonjour.
Olivier Rollin, vous êtes écrivain, romancier. Votre dernier récit est paru aux éditions Gallimard et s'intitule « Vider les lieux ». Luba Jorgensen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes traductrice du russe et professeure, spécialiste de littérature russe. Vous avez traduit de nombreux textes importants, dont notamment pour les éditions Kalman Levy, Pour une juste cause, ou Pour la juste cause, que vous venez de retraduire, qui est en quelque sorte la première partie justement de Vie et Destin, Luba Jorgensen.
Tout à fait. Alors, je n'ai pas retraduit complètement pour une juste cause, mais je viens de reprendre ma première traduction qui était parue à l'âge d'homme en 2000, parce que, d'une part, beaucoup d'années sont passées depuis, que je vois ce texte un peu différemment, mais surtout parce que Robert Chandler, le traducteur anglais de Vassili Grossman, a réalisé un travail absolument extraordinaire sur les archives. Il a exhumé des versions censurées et il a reconstruit le texte avec des passages qui avaient disparu et ça change complètement ce texte, ça le rapproche bien davantage de Vie et Destin qu'on ne le pensait. En fait, quand il est paru en 2000 en français, basé sur l'édition de 1956 qui était l'édition la plus complète, on avait l'impression d'un texte qui était encore complètement dans l'esthétique du réalisme socialiste, qui commençait très difficile à définir. Et en fait, en restituant ces passages, ce texte change vraiment de sens. C'est un autre livre, car parfois il suffit d'une phrase, voire d'un mot, pour que toute la tonalité d'un passage change. Voilà, donc j'ai traduit ces passages trouvés dans les archives, à travers lesquels on voit un Grossmann beaucoup plus téméraire qu'on ne pensait à cette époque-là, à l'époque où il écrivait Pour une juste cause. En un sens, Pour une juste cause devient un livre aussi courageux par rapport à son époque, car il est écrit du vivant de Staline, que Vie et destin l'est par rapport aux années 60.
Et le livre, Pour une juste cause, devait s'appeler au départ Stalingrad, si je me trompe pas. Et on a dit, signifié à Vassili Grossman que c'était absolument impossible, car qui était-il pour s'approprier le glorieux nom de Stalingrad? Je trouve cette raison assez magnifique et ça dit beaucoup justement de ce qu'était écrire en Union soviétique à l'époque.
Tout à fait, Stalingrad devient un thème sacré, il y a le nom de Staline dedans, et très vite s'élabore un canon pour parler de ce qu'on appelle la Grande Guerre patriotique. Donc ce canon suppose que l'on ne puisse pas s'approprier ces contenus sacrés, et nous avons d'ailleurs hésité avec les éditeurs chez Kalman Levy à reprendre le nom de Stalingrad, puis finalement on a décidé de garder Pour une juste cause, qui contient toute une histoire. Hein. Déjà dans ce titre, il y a l'histoire de la réception et de la mutilation de ce livre par la censure.
Mais en russe, on peut pas faire la différence, si je me trompe pas, entre Pour une juste cause et Pour la juste cause, justement.
Non, en effet. En effet, donc là, c'est encore un choix.
Moi, j'avais l'impression, en tout cas, que l'idée soviétique, ce serait plutôt que c'est pour la juste cause, qu'il n'y en a qu'une. Ou pas, ou je me trompe complètement.
En l'occurrence, effectivement, pendant la Grande Guerre patriotique, et on retrouve d'ailleurs ce mythe de la Grande Guerre patriotique aujourd'hui, c'est la juste cause. Mais à travers l'histoire soviétique, les justes causes évoluent et se multiplient. Donc il y a d'abord la révolution, bien sûr, puis il y a l'industrialisation, il y a la guerre. Donc les causes définies comme justes dépendent de l'époque et en fait des objectifs du gouvernement et des objectifs autour desquels le gouvernement, et là en l'occurrence le gouvernement stalinien, cherche à fédérer la population.
Donc si Pour une juste cause est aussi extrêmement important, c'est parce que cette première partie nous présente déjà non seulement tout le début de la bataille de Stalingrad, mais aussi grande partie des personnages que nous allons retrouver dans Vie et destin, Olivier Rollin.
Oui, oui, en effet, oui, oui, autour de la famille Chapochnikov et du représentant, enfin du représentant, c'est toujours un peu bête de dire ça, mais enfin disons de celui qui est le plus proche de l'auteur, de Grossman, c'est-à-dire Victor Stroum, physicien nucléaire. Mais je dois dire, j'écoutais Louis Jorgensen, bon, je dois confesser que je n'ai pas lu Pour une juste cause. Et si je peux me permettre, non pas une critique, mais enfin, j'aurais préféré que le nouveau texte, puisqu'en effet c'est un texte modifié, augmenté, etc., s'appelât Stalingrad, parce que Pour une juste cause, il y a quelque chose d'un peu repoussant, d'un peu trop réel, justement, c'est de l'esthétique réaliste-socialiste dans ce titre-là qui m'en a, je dois le dire, jusqu'à présent éloigné. Mais maintenant que je vous ai écouté, je vais le lire.
Oui, mais en même temps, on sent bien que Pour cette juste cause, ou Pour une juste cause, résume bien aussi les difficultés de Grossman quant à la publication, c'est-à-dire cette volonté, désir de liberté dans l'écriture, et l'impossibilité qui est celle de la censure, Yael Pachet.
Oui, Pour une juste cause, ça lui a été conseillé par ses amis de la Société des écrivains, de même que Stroum n'est pas un héros totalement dans ce livre, il est subalterne par rapport à son maître, dont je ne sais pas si je prononce le nom correctement, Tchépijin, et qui a été instauré comme un maître de Stroum pour ne pas faire d'un physicien juif un personnage trop important dans ce roman. Donc tout ça, ce sont des mesures de précaution, de prudence, qui ont été plus ou moins efficaces. Enfin,
oui, plutôt moins que plus, d'ailleurs, par la suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Vie et destin, qui nous intéresse aujourd'hui, on vient de l'entendre dans l'extrait, ce qui est extrêmement surprenant et qui ne se trouve pas dans Pour une juste cause, c'est ce parallèle entre le totalitarisme soviétique et les crimes nazis, et on voit bien que dès l'ouverture de Vie et Destin, on est dans un camp de concentration allemand dans lequel se retrouvent tous ces personnages de déportés, Yael Pacha.
Oui, en écoutant l'extrait tout à l'heure, je pensais, je passais un proverbe chinois qui dit qu'on voit le monde dans un grain de riz, dans un extrait d'un grand roman, comme vous dites, il y a toute l'ADN du roman qui est présent d'une manière assez mystérieuse. Ça ne veut pas dire qu'on pourrait... bonne nouvelle, vous pouvez lire Vie et Destin, vous lisez un paragraphe, vous avez lu Vie et Destin. Il faut quand même aller au bout des 1000 pages et effectivement lire pour une juste cause et tout passe ensuite. C'est-à-dire accepter de se plonger dans un océan de pages, mais dans lequel on s'arrête et on est invité par Grossman à s'asseoir dans un camp de concentration. On est invité à être à Stalingrad, dans une maison assiégée dans des conditions complètement uberluesques. On est invité à converser avec toute une myriade de personnages. Après, sur la question de cette polarité du sens soviétique, pro-soviétique, anti-soviétique, totalitaire ou anti-totalitaire, il me semble que déjà au début de Vie et Destin, il dit des choses, d'ailleurs Luba Jurgensen pourra le dire, il dit quelque chose, Luba dit le contraire dans ses notes, il dit que c'est une invention national-socialiste que de demander à des droits communs, de leur demander, comme ça leur demander un service, mais de mettre les droits communs dans une position d'autorité sur des prisonniers politiques, c'est pas du tout une invention des nazis. Or, il le dit au début de Vie et Destin. Donc, en permanence, on est confronté parfois à des choses qu'on pourrait appeler la vérité. On est à la recherche de la vérité et parfois à des contre-vérités. Mais d'une certaine manière, comme on est dans un processus de conversation, comme dans le métro, on peut le prendre dans les deux sens. On est dans une polarité qui tourne et on peut aller dans une certaine direction, dans une autre.
Luba Jurgensen.
Oui, en fait, ce n'est pas une contre-vérité, mais c'est un procédé assez courant dans la littérature soviétique qui consiste à situer ailleurs ce qui se passe dans le pays. Et en fait, ça ne trompe personne, c'est-à-dire que le lecteur de Grossman, à l'époque, il savait très très bien de quoi il s'agissait. Et d'ailleurs, dans Pour une juste cause, il y a déjà quelques timides comparaisons entre la terreur soviétique et la terreur nazie, notamment lorsqu'il y a un personnage qui rentre d'Allemagne. Et ça, c'est un passage qui a été censuré, justement, le fait de le restaurer change complètement le sens de certains dialogues. Donc, le personnage rentre d'Allemagne et raconte la totale mise au pas de la société allemande et notamment des savants allemands. Et ce passage n'a pas pu paraître dans l'édition de 56 parce que, justement, pour un lecteur soviétique de l'époque, c'était évident, le parallèle avec ce qui s'était passé en URSS, c'était absolument évident. Donc voilà, moi je parlerai pas tellement de contre-vérité, mais de transposition. Et en fait, le propos essentiel, ce propos qui est absolument inaudible, même dans les années 60, qui suivent le dégel, sur les similitudes entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique stalinienne, ce propos central, il est mis dans la bouche d'un nazi, ce qui était censé sécuriser, comme disaient les membres de l'Union des écrivains, sécuriser le roman. Mais en fait, les censeurs n'étaient pas non plus idiots et ils ont très très bien compris comment ça fonctionnait.
Oui, c'est dans la bouche d'un nazi et toute cette scène qui est effectivement fondamentale dans Vie et Destin fonctionne comme les tentations de Saint-Antoine. Le saint communiste entend un discours dont il subit les tentations, il doute et finalement il revient à sa juste cause, il revient à sa pensée. Mais effectivement, le lecteur n'est pas dupe à l'époque, mais je crois qu'encore aujourd'hui, indépendamment de cette lecture historique par rapport à l'histoire de la littérature en Union soviétique, on est frappé de sa propre possibilité de s'orienter, de se laisser désorienter, de changer d'avis. Enfin, il me semble que ça reste tout de même, dans le processus de lecture, quelque chose d'important. On s'avance vers la vérité, elle recule au fur et à mesure qu'on avance. C'est ce que dit Claude Lefort, c'est ce que disent les scientifiques aussi d'ailleurs.
Olivier Rollin, est-ce que vous vous souvenez de votre première lecture de Vie et Destin, par exemple? Est-ce que vous aviez eu cette sensation?
Oui, je m'en souviens assez bien parce que il se trouve qu'à l'époque, je crois que c'était en 1983, quand le livre a paru en France à l'âge d'homme. Et à l'époque, j'écrivais des critiques littéraires pour Libération. Voilà. Et donc, j'ai fait la critique de Villiers d'Estaing quand il a paru en France et avec un émerveillement. Un émerveillement à la fois pour la vérité que cela jetait sur l'histoire soviétique, sur l'histoire du communisme soviétique, bon. Mais aussi, je dois dire, l'extraordinaire intelligence et subtilité romanesque du livre. Parce que c'est pas simplement, bien sûr, c'est un grand livre de philosophie politique, si je puis dire, enfin bon, de réflexion sur les deux grands totalitarismes cannibales du XXe siècle et sur leur proximité, en dépit de beaucoup de différences tout de même. Bon, mais c'est aussi une formidable mise en scène, justement, des réactions des gens face à la toute-puissance de l'État, des petites lâchetés, des compromissions, des petits actes de courage. Enfin bon, c'est aussi, voilà, une formidable peinture de l'âme humaine, employant ce mot, face à la violence de l'État, quoi. Donc tout cela, ce côté philosophique et ce côté aussi merveilleusement romanesque, m'avait ébloui quand je l'ai lu, donc en 83.
Yael Pachet, est-ce que c'est pas justement cette grande diversité à la fois de moyens littéraires, mais aussi de sujets, de thèmes qui font de cette épopée de Vie et Destin quelque chose d'assez unique, qui va bien au-delà du roman de guerre?
Oui, je pense à plusieurs choses, parce que Vie Destin, Olivier Rollin dit qu'il l'a adoré quand il l'a lu, mon père l'a lu, sa parution, a écrit un article dans la revue Esprit où il a exprimé le fait qu'il trouvait ce livre mauvais et il reprochait à Grossman, d'une certaine manière, il dit parfois il y a des éclats de vérité, mais il y a quelque chose de profondément soviétique dans le style, les énumérations.
Je signale pour les auditeurs, votre père c'est Pierre Pachet, l'intellectuel et écrivain disparu il y a quelques années.
Oui, donc il n'a pas eu cet enthousiasme-là. Donc, en lisant ce livre, j'ai beaucoup pensé à mon père. D'une certaine manière, moi, ce qui m'a frappé, c'est que on est très individualiste quand on lit, on souligne un passage. En réalité, des millions d'autres personnes ont souligné le même passage, mais on se sent seul face au livre. Et en même temps, ça m'a relié à différentes fibres émotionnelles. Ne serait-ce que la question de l'impact de la littérature russe en France, de l'impact de Tchekhov, de Tolstoï chez mon père, et cette fibre juive russe qui fait que la langue russe a un impact particulier. Moi, ce qui m'a frappé simplement, c'est par rapport à la musique. Vassil Grossman, il aimait beaucoup chanter des chansons populaires et il aimait l'opéra. Sa mère enseignait le français, l'a emmené à Genève. Il chantait des grands airs d'opéra, ça m'a fait penser à Boris Godounov, Moussorgski, complètement alcoolique, mais qui écoutait des chansons populaires, qui les a intégrées dans ses opéras. Et il y a un aspect opératique, évidemment, dans Vie et Destin. On fait entendre le peuple d'une manière chorale dans l'opéra. Mais Vassil Grossman, il a cette folie de faire entendre le peuple comme s'il les mettait un par un. On atteint le peuple en conversant ou en regardant un regard, une attitude, un geste. Corps après corps, une accumulation, une théorie de corps pensant tout au long du destin qui donne ce sentiment du monde, d'une sensation qu'on a. On a l'impression qu'on rencontre le monde ou qu'on rencontre le peuple.
Luba Jorgensen, sur cette diversité justement des voix et des matériaux qui composent le destin.
Oui, là clairement, Grossman se réfère à Tolstoï. Bah, chez Tolstoï, on va trouver aussi dans Guerre et Paix à la fois cette diversité et cette façon de montrer l'individu au milieu de la foule. Grossman, effectivement, recourt à l'énumération qui est aussi une trace peut-être du modernisme qui s'est conservé au sein du réalisme socialiste. Voilà, il y a à la fois cette référence au classique, à la fois ce modernisme des années 30, et puis effectivement, il y a chez Grossman l'héritage de la littérature juive qui s'est écrite en langue russe, comme les récits d'Isaac Babel, par exemple. Mais à la différence de Babel, Grossman s'éloigne de cette inspiration juive pour s'intégrer pleinement dans la littérature soviétique. Et évidemment, la grande fresque fait partie du monumentalisme soviétique.
Olivier Rollin, vous êtes aussi un grand lecteur de Tolstoï. Est-ce que ce rapprochement guerre et paix, vie et destin vous est apparu à la lecture ?
Oui, bien sûr, oui. Mais il y a dans le cœur, si l'on veut, des deux livres, c'est une grande épopée russe, enfin, ou en tout cas qui a été présentée, qui a été mise en scène comme une grande épopée russe. Bon, dans un cas, la guerre de 1812, enfin la guerre contre Napoléon, et puis dans l'autre cas, Stalingrad et la grande guerre patriotique, comme on dit. À ce propos, pardon, je fais une incise, parce que une chose qu'il faut signaler aussi dans Vie et Destin, en dépit de son aspect opératique, en dépit de son aspect épopée, etc., c'est l'humour. Bon, c'est l'humour de Grossman. Et par exemple, il y a une scène qui est absolument inénarrable, je trouve, où un général s'en prend aux journalistes, disent les journalistes, ils savent pas ce que c'est que la guerre, etc., ils se tiennent de l'autre côté de la Volga, ils regardent ça de loin. C'est pas comme Tolstoï quand il a décrit la guerre contre Napoléon dans Guerre et Paix. Et le personnage de Vie et Destin lui dit, mais camarade général, Tolstoï n'était pas né en 1812. Et le général répond, pas né, comment ça, pas né, qu'est-ce que vous voulez dire, pas né, enfin bon, bref, il y a beaucoup d'ironie aussi et de critiques, enfin, sur la stupidité de certains généraux, l'ivrognerie de certains autres, etc., etc. Enfin, toujours est-il, oui, en tout cas, pour revenir à votre question, oui, bien sûr, le parallèle entre Guerre et Paix et Vie et Destin, enfin, est tellement évident, tellement affirmé, d'ailleurs, je crois, par Grossman, que, bien sûr, il m'avait frappé. Mais, encore une fois, j'insiste là-dessus, ça n'est pas qu'un récit de guerre, même si c'est un formidable récit de guerre, moi j'en connais peu d'aussi grand, bon, mais ça n'est pas qu'un récit de guerre, c'est bien plus que ça, quoi, Vie et Destin, c'est l'individu face au Moloch de l'État, quoi.
Oui, non, parce que vous parlez de Tolstoï, je voulais juste dire un mot sur la façon dont Tchekhov est un personnage très important dans Vie et Destin. Et une chose que j'aime beaucoup chez Grossman, c'est son goût pour l'amitié, pour la conversation. Conversation qui met en danger, parce qu'une conversation, c'est déjà une sortie hors de l'individu, d'un certain nombre d'opinions, de ressentis. Et on sait bien, Kleist nous l'a expliqué, que les idées viennent au fur et à mesure qu'on parle. On pense qu'on veut dire quelque chose, mais en le disant, quelque chose malgré soi sort de soi. Cette expérience-là, je trouve qu'il en dit quelque chose d'important. Donc il dit, comment on choisit un ami ? On lui demande quelles sont les nouvelles de Tchekhov qu'il préfère. Et à un moment donné, Grossman dit à propos de Schtroumpf, il en avait voulu à Lyudmila, Nikolaïevna, de son indifférence à l'égard de Tchekhov, comme si c'était un crime plus grave que la déportation, etc. Et à côté de cette scène fondamentale de Vie et Destin, la mise en miroir, évidemment, du nazisme et du stalinisme, qui est montrée d'une certaine manière comme étant refoulée, comme une chose qui tente, mais évidemment, le lecteur l'ayant entendu ne peut plus oublier cette tentation, cette pensée audacieuse reste. Mais juste à côté, il y a un autre personnage qui parle de Tchekhov. Et il s'agit de la bonté sans idée, qui est une sorte de concept chez Grossman, qui a beaucoup impressionné Lévinas après, etc. Et alors ce personnage dit, qu'a dit Tchekhov, que Dieu se mette au second plan, que se mettent au second plan les grandes idées progressistes, comme on les appelle, bon, commençons par l'homme, soyons bons, etc. Et ça s'appelle la démocratie du peuple russe, une démocratie qui n'a pas vu le jour. Mais là où je trouve ça drôle, justement, comme dit Rollin, l'État peut s'irriter contre le décadent, lui donner une taloche ou un coup de pied au cul, mais l'État avec un grand E majuscule, est incapable de comprendre l'essentiel chez Tchekhov et c'est pourquoi il le tolère.
Magnifique idée, effectivement. L'État incapable de comprendre et donc il tolère ce qu'il ne comprend pas. Pourtant, ça n'a pas tellement été le cas. En réalité, c'était plutôt ce qu'on ne comprenait pas vraiment, tomber dans la catégorie du doute, n'est-ce pas, Luba Jorgensen ?
En fait, l'État comprenait assez bien certaines choses, comme le montre la confiscation de Vie et Destin. Mais effectivement, alors moi je voudrais rebondir sur la question de l'humour. En effet, l'humour est très important chez Grossman. Et d'ailleurs, son fils adoptif, dont l'ouvrage comprenant une partie de la correspondance de Grossman vient de paraître également chez Calvin Levy, souligne cette dimension d'humour. Et là, je crois que c'est dans Pour une juste cause, il y a aussi un passage très drôle où un général qui a été encerclé, finalement, sort avec ses soldats parce qu'il suit une chèvre. Voilà, il a une chèvre comme guide, il ne se fie pas à la boussole. Et la chèvre finit par sortir tout ce groupe de militaires démarrés et ils échappent ainsi à l'encerclement allemand. Alors évidemment, c'est totalement inaudible parce que normalement, c'est l'image de Staline ou c'est le rôle du parti. En fait, c'est le parti qui guide les militaires. Et donc, ce passage sur la chèvre a été censuré. Voilà, je voulais dire aussi que la comparaison entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, bon, bien sûr, c'est un propos qui peut-être ne tient pas face aux découvertes des historiens, parce qu'il y a effectivement beaucoup de différences entre les deux régimes. Mais c'est un propos qui est latent dans la société soviétique. Et c'est ce qui rend aussi le texte de Haussmann très actuel, parce que ce propos est aujourd'hui de nouveau criminalisé et... si on soutient qu'il y a des similitudes entre les deux régimes, on risque aujourd'hui en Russie une peine de prison. Donc ça réactualise l'œuvre de Grossman.
Vassili Grossman aimait les chansons populaires. Nous allons écouter une chanson très populaire, justement, qui parle de la guerre.
За нашей спиною остались падения, закаты. Ну, хоть бы ничтожный, ну, хоть бы невидимый взлет. Мне хочется верить, что черные наши бушлаты дадут мне возможность сегодня увидеть восход. Сегодня на людях сказали: умрите геройски, попробуем, ладно, увидим, какой оборот. Я только подумал, чужие куря папироски. Тут кто как умеет, мне важно увидеть восход. Особая рота, особый подсчет для сапера. Не прыгайте с финкой на спину мою. Из ветвей напрасно стараться я и с перерезанным горлом. Сегодня увижу восход. До развязки своей прошли по тылам мы, держась, чтоб не резать их сонных. И вдруг я заметил, когда прокусили проход еще не смышленый, зеленый, но чуткий подсолнух.
Nous venons d'entendre Vladimir Vysotsky chanter Les Cabans Noirs, Chorny et Bouchlati, une chanson de commando qui se demande, qui ne sont pas sûrs du tout de voir l'aube prochaine. Au cœur de Vie et Destin, il y a la guerre et la bataille de Stalingrad, et aussi et surtout peut-être l'expérience auprès des combattants, en tout cas de Vassili Grossman lui-même, le Boy Jorgensen.
Ben, Grossman, à la différence de Tolstoï, qui n'en était pas né en 1812, Grossman, lui, participe réellement à la guerre en tant que correspondant du journal de l'armée L'Étoile Rouge. Et il se trouve à Stalingrad, dans les endroits les plus chauds, et notamment voilà, sous les bombes, sous les obus. C'est un miracle s'il en revient. Et il est effectivement dans ces maisons bombardées, à côté des combattants. Donc il voit la guerre vraiment de très très près. Et c'est ça qui nourrit Vie et Destin. C'est ça aussi qui pose problème à ses lecteurs officiels. Parce que en côtoyant de très près les combattants, le tableau qu'il restitue n'est pas du tout celui qui a été canonisé. Et c'est là que entre en conflit, en fait, ces deux vérités dont il parle d'ailleurs dans Vie et Destin, les deux vérités autour desquelles se disputent les deux sœurs Chapochnikov, à savoir la vérité du réel tel qu'on le voit et la vérité de ce qui devrait être, qui est la vérité de l'idéologie, la vérité du réalisme socialiste. Et Grossman ne veut pas admettre qu'il y a deux vérités. C'est en ce sens-là qu'il s'écarte de la doctrine du réalisme socialiste. Et pour lui, il n'y a qu'une vérité, c'est ce qu'il a vu de ses propres yeux. Et c'est ce qu'il écrit d'ailleurs dans sa lettre à Khrushchev, qu'il adresse au chef de l'État pour plaider la cause de son roman confisqué. Il dit « Je n'ai écrit que la vérité ». Voilà, donc en gros, il assume ce qu'il a décrit. Et cette vérité vient effectivement du contact très étroit avec les soldats, avec les hommes qui se battent.
Yael Pachet.
Oui, juste sur cette histoire de vérité, Grossman a eu une correspondance avec Gorki, qui était l'écrivain le plus admiré, le plus important de l'époque. Et Gorki, dans une de ses lettres, c'est Semyon Lipkin qui le raconte, dans une de ses lettres, il dit à Grossman « Faut-il t'expliquer qu'il existe deux vérités ? Une vérité du réel qui nous est imposée par notre maudit passé et une autre vérité du réel qui vaincra la première. » Voilà, donc c'est dans cette vérité du futur que je veux vivre. Alors ça, c'est cette histoire des deux vérités, une vérité utopique du futur, une vérité du présent qui est d'une certaine manière contaminée par le passé, qui est dans la lettre de Gorki. Elle revient dans une conversation dans Vie et Destin, ce que j'aime beaucoup, dans la famille, les gens discutent et sont pas d'accord les uns avec les autres. Moi, j'aime beaucoup les discussions, les gens ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Et donc, Genia, qui peint des tableaux, dit « Moi, je veux pas vivre dans un slogan, j'ai pas envie de peindre des slogans, j'ai envie d'être libre. » Et sa sœur lui dit « Mais il y a deux vérités, et il faut vivre dans la vérité du futur. » Et donc, sa sœur lui dit « Quoi ? Bah, tu veux te détourner de la vie ?» Donc, c'est ça que je trouve merveilleux chez Grossman, c'est-à-dire que ces questions sont débattues en famille, avec tout ce qu'on connaît des familles, c'est-à-dire à la fois on s'aime et tout le monde est exaspéré les uns par les autres.
Mais c'est pourtant, Olivier Rollin, la réalité du combat qui nourrit au plus profond Vie et Destin, si on compare avec le courage, l'héroïsme qu'on trouve dans d'autres récits de bataille de Stalingrad, chez Nekrassov et les autres, là, on a l'impression que, certes, il est question de courage, mais beaucoup moins d'héroïsme et de ces valeurs si soviétiques, tout en conservant quand même la puissance de la réalité au quotidien des combattants, Olivier Rollin.
Oui, mais c'est écrit, enfin, à cause de l'expérience de Grossman, qui aurait dû rester jusqu'au bout à Stalingrad, mais qui en a été, en fait, écarté au dernier moment, quand il a été clair que la victoire était là, il en a été écarté par la direction de Krasnaya Zvezda, là-bas, de l'Étoile Rouge. Bon, pour des motifs qu'on peut imaginer, enfin. En tout cas, bref, il a fait pratiquement toute la bataille, il a été là pratiquement tout le temps, et tout le temps au contact. Il était dans la ville, à proximité immédiate de la ligne de front, ayant des rapports amicaux aussi bien avec les généraux qu'avec beaucoup de soldats, de petits officiers, etc. Donc voilà, cette expérience absolument immense, fourmillante, se traduit dans ce livre où on sent une admiration formidable. Mais c'est le courage de chaque petit bonhomme, c'est le courage du type qui va porter le bidon de lait le matin. C'est pas simplement le courage des grands chefs. C'est même pas principalement le courage des grands chefs. Il y a une scène qui est assez drôle, c'est un type, Beryozkin, bon, et il est fait lieutenant-colonel puis colonel parce qu'il a dirigé son régiment, etc., pendant une attaque de chars allemande, et en fait, il a été enseveli dès le début de l'attaque, son abri a été démoli par des obus, et il a passé toute l'attaque dans une espèce de caverne en ne pouvant pas sortir, et donc, alors, il a été héroïque si l'on veut, mais enfin, en même temps, il n'a rien fait. Bon, donc voilà, c'est pas du déroulé soviétique, quoi, absolument pas. C'est la guerre décrite de la façon la plus humaine, la plus extraordinairement humaine qui soit. Et là encore, bon, on a parlé de Tchekhov et de l'admiration qu'il avait pour Tchekhov et du fait qu'il dit que Tchekhov est celui qui introduit des individus, des centaines d'individus dans la littérature russe. Et bien voilà, c'est ce que fait, y compris dans cette espèce de gigantesque chaudron, de cet gigantesque drame qui est une très grande bataille. Il introduit des centaines d'individus. Entre parenthèses, je reviens sur Tchekhov. Ce qui a été dit précédemment, il ne fait pas de doute pour moi que si Tchekhov avait vécu plus longtemps, il aurait terminé dans un camp et que l'État bolchevique savait très bien ce qu'il y avait de subversif dans la littérature de Tchekhov.
France Culture, les romans qui ont changé le monde. Mathias Sénard.
Un des exemples peut-être les plus frappants et les plus puissants de cette partie, roman de guerre de Vie et Destin, c'est la maison 6 bis, qui est à la fois un huis clos, donc où la littérature peut donner, on sait très bien tout ce qu'on peut faire avec un lieu isolé, et en même temps un lieu de courage, d'abnégation, où même les relations entre les différents combattants donne à voir tout ce qu'il peut y avoir de désir. Je pense à la jeune radio qui arrive, toute jeune femme dans la maison 6 bis, mais aussi de sacrifices de ces gens qui boivent l'eau du chauffage des radiateurs, qui sont sûrs et certains qu'ils vont mourir. Le tout, c'est de savoir quand. Luba Jorgensen.
Oui, effectivement, le motif de la maison permet de mettre en scène différents personnages avec leurs histoires, conversations aussi, parfois tout à fait futiles. Et c'est effectivement, la maison 6 bis, c'est un exemple de maison, parce qu'il s'agit effectivement de combats au sein de la ville. D'ailleurs, chez Grossman, c'est intéressant de comparer les différents lieux de combat. Il y a les champs de bataille, et là, on retrouve certains procédés tolstoïens, en tout cas les grands panoramas. Et à côté de ça, la réalité de Stalingrad, c'est les combats de ville. Donc la maison 6 bis, c'est une parmi plusieurs maisons où les gens se battent, qui résistent. Et Grossman s'est inspiré d'une certaine maison dont tous les défenseurs finalement ne sont pas morts. Mais il en fait un lieu fermé sur lui-même, hein, ce qui permet de faire ressurgir mieux les caractères individuels de chacun des combattants.
Sur lui-même, mais où il faut quand même aller contrôler, il faut quand même envoyer un commissaire politique, voir ce qui peut se passer dans cette maison, Olivier Rollin.
Oui. Cette maison, le commissaire Krimov, il est envoyé là-bas parce que là aussi c'est une chose qui est drôle, magnifiquement ironique. C'est un des officiers qui l'envoie là-bas dit ce qui se passe là-bas, ça ne ressemble pas à un détachement militaire, c'est plutôt quelque chose dans le genre de la Commune de Paris. Bon, on sent bien que quelque chose dans le genre de la Commune de Paris, c'est-à-dire avec tout cet aspect tirant sur l'anarchisme de la Commune de Paris, ça ne plaît pas du tout. au commandement soviétique, quoi. Donc il est envoyé pour faire en sorte que ce ne soit la Commune de Paris, mais que ça obéisse au doigt et à l'œil et que ça suive les directives du parti, etc. Il n'y parviendra pas, il sera évacué de cette maison pour d'ailleurs se retrouver très vite à la Loubianka, c'est-à-dire dans les mains de la police politique. Bon, mais cette maison, la petite épopée au sein de la grande de cette maison 6 bis, c'est formidable, parce que la maison 6 bis, c'est une démocratie combattante. C'est l'endroit où se réalise ce que pourrait être et ce qui était l'espoir, sans doute, de beaucoup de combattants de la Grande Guerre patriotique, de beaucoup de combattants de Stalingrad. C'est-à-dire qu'à la fin de tout ça, se réaliserait quelque chose comme une démocratie socialiste. Bon. Et dans cette maison 6 bis, eh bien, voilà, c'est une démocratie socialiste combattante. Il n'y a pas de grade, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'obéissance obligatoire, etc. Il y a des passions, il y a des convoitises, il y a le commandant, enfin le gérant, ils disent de façon ironique, le gérant de la maison 6 bis, enfin le chef de la maison 6 bis, qui est plein de désirs pour la jeune radio, et puis qui finalement va la laisser partir avec le jeune soldat qu'il aime, et il y a ce passage extrêmement beau, je trouve. Donc ils s'en vont et la jeune radio Katia voit le regard de ce type Grekov, le chef de la maison. Là, elle n'a jamais vu des yeux, alors je sais plus la phrase exacte, mais si grave et si triste. Enfin voilà. Il voudrait bien la garder, mais il la laisse partir, il la laisse aller au-devant de son destin, de sa jeunesse, de son amour avec ce jeune soldat, etc. Bref, en tout cas, cet endroit de la maison 6 bis, c'est un endroit, oui, c'est l'utopie d'une démocratie combattante.
Écoutons un deuxième extrait de Vie et Destin, lu par la comédienne Élodie Hubert.
Je suis sûre, Vitya, que cette lettre te parviendra, bien que je sois derrière la ligne du front et derrière les barbelés du ghetto juif. Je ne recevrai pas ta réponse car je ne serai plus de ce monde. Je veux que tu saches ce qu'ont été mes derniers jours. Il me sera plus facile de quitter la vie à cette idée. Il est difficile, Vitya, de comprendre réellement les hommes. Les Allemands sont entrés dans la ville le 7 juillet. La radio, dans le parc de la ville, transmettait les dernières informations. Je rentrais de la polyclinique après les consultations et je me suis arrêtée pour les écouter. La speakerine lisait en ukrainien un article sur les derniers combats. J'ai entendu des détonations éloignées, puis des hommes traversèrent en courant le parc. Je repris le chemin de la maison en me demandant comment j'avais fait pour ne pas entendre les sirènes de l'alerte aérienne. Soudain, je vis un tank et une voix cria « Les Allemands sont passés !» J'ai dit « Ne créez pas de panique !» La veille, j'étais passée chez le secrétaire du soviet de la ville et je lui avais posé le problème de l'évacuation. Il s'était mis en colère. « Il est trop tôt pour en parler, nous n'avons même pas établi de liste !» Bref, c'était les Allemands. Toute la nuit, les gens allaient les uns chez les autres. Ne sont restés calmes que les petits-enfants et moi. J'avais décidé qu'il m'arrive ce qui arrivera aux autres. Au début, j'ai été prise de terreur. J'avais compris que je ne te reverrais jamais plus. Et j'ai eu un désir fou de te regarder une fois encore, de baiser ton front, tes yeux. Mais ensuite, je me suis dit que c'était un grand bonheur, que tu étais en sécurité. Je me suis endormie au petit matin. Et quand je me suis éveillée, j'ai senti une affreuse tristesse. J'étais dans ma chambre, dans mon lit. Et pourtant, je me sentais en terre étrangère, oubliée, solitaire. Ce même matin, on m'a rappelé ce que j'avais eu le temps d'oublier pendant les années de pouvoir soviétique. J'étais une juive. Des Allemands passaient dans des camions en criant « Juden kaput ».
Nous venons d'entendre un des passages peut-être les plus émouvants de Vie et Destin, cette lettre écrite par la mère depuis presque la mort, ou en tout cas juste avant sa disparition, à son fils. Lettre qui fait bien évidemment penser à celle que sans doute aurait aimé recevoir peut-être Vassili Grossman de sa propre mère, Yael Paché.
Oui, c'est une lettre ou une sorte de carnet, enfin c'est des notes qu'elle a prises, on voit bien que c'est à cette forme-là. Il parle de la présence de cette écriture comme un tombeau dans sa vie. C'est la grande culpabilité de Vassili Grossman de ne pas avoir accueilli sa mère qui était à Berditchev où il est né. Il l'a pas accueillie parce que sa femme trouvait qu'il n'y avait pas assez de place. Tout le monde était entassé dans des petits appartements les uns sur les autres. et il ne l'a pas sauvée. C'est vrai qu'il y a le corps soldat de Grossman, Grossman qui s'engage comme journaliste effectivement pour l'Étoile Rouge, perd du poids, il dit à son père, je suis très heureux parce que j'ai perdu du poids, il a appris à tirer en 3 semaines, et il fréquente les soldats, il rentre dans la guerre. Sur la question de la maison du 6 bis, il note dans ses carnets quand même tous les viols systématiques par les soldats, donc on peut imaginer que cette petite radio, cette petite jeune fille qui part en regardant le regard, si ça se trouve tout le monde lui est passé dessus, enfin je suis pas sûre que ça se passe si bien que ça pour elle. Mais en tout cas, il y a aussi l'expérience de Grossman avec Ilia Ehrenburg et le comité antifasciste juif qui vise à rassembler des témoignages. Staline pense que c'est intéressant de rassembler des preuves contre l'ennemi allemand et finira par dissoudre ça, interdire la parution du livre noir. Il fera assassiner Michols, qui était pour lui le juif principal du RSS, selon les mots de Staline. Il le fera assassiner, etc. Donc il y a toute cette mélancolie, ce rapport à la mère. D'ailleurs, à la fin de Tout passe, le dernier roman, qui est une sorte d'épilogue de tout ça, où le peuple disparaît d'une certaine manière, on revient à un individu, une grande solitude, ça se termine, il va jusqu'à la maison de son père. Donc finalement, c'est pas vers la mère qu'il se tend, mais vers la maison du père. Et il imagine sa mère viendrait vers lui, l'enfant prodigue, et il s'agenouillerait devant elle. Il y a une dévotion à la mère dans toute l'œuvre de Grossman qui est très forte. Il y a aussi l'icône de la mère universelle, une femme qui serait capable de ressentir un amour universel, y compris pour un soldat allemand, si c'est une mère russe, et qui dépasse tous les cloisonnements et tous les interdits.
Un des aspects les plus originaux, ou en tout cas les plus passionnants de Vie et Destin, c'est justement sa description de la destruction des Juifs d'Europe, que ce soit en Ukraine ou en Pologne, Luba Jorgensen.
Alors moi je voudrais qu'on revienne juste un instant sur la lettre de la mère, parce que c'est quand même, effectivement, c'est un des passages les plus bouleversants de Vie et Destin, et en fait Strum reçoit cette lettre dans Pour une juste cause, mais il ne l'ouvre pas, il y a différents, sa lecture est retardée. Et voilà, on a pu se demander si c'était de l'autocensure, parce qu'on voit très très bien la place de cette lettre, où la lettre aurait pu être lue dans Pour une juste cause. Et je voulais aussi mentionner le fait que Grossman écrit à sa mère, alors qu'elle est déjà morte, il lui adresse 2 lettres très importantes à des années de distance, à 10 ans de distance, donc une 10 ans après sa mort et une autre 20 ans après sa mort, lorsqu'il est dans des moments de grande crise. Voilà, donc le dialogue avec sa mère ne cesse jamais, en fait, et Vie et Destin lui est dédié. Et puis Grossman fait partie de ces reporters soviétiques qui sont les premiers à découvrir les camps d'extermination. Donc lui découvre le camp de Treblinka, ou plutôt ce qui en reste, et il en parlera dans sa brochure « L'enfer de Treblinka », qui sera d'ailleurs distribué au procès de Nuremberg. Et c'est là qu'il comprend l'ampleur de la catastrophe, ou plutôt il comprend un aspect de la catastrophe qu'il n'avait pas pu approcher jusque-là, alors qu'il, effectivement, il recueillait les témoignages des Juifs dans les territoires occupés, et donc savait très très bien la réalité de l'extermination.
Et dans Vie et Destin, même Vassili Grossman raconte, c'est-à-dire vraiment le romancier au plus près de ce qu'il peut imaginer comme réalité, ou en tout cas ce qu'il a entendu comme témoignage, le chemin des Juifs jusqu'à la chambre à gaz, et même dans la chambre à gaz, et jusqu'à la position des corps, et ainsi de suite. Donc c'est un des rares romans, ou en tout cas objets littéraires de fiction, qui rentrent jusque à la mort, c'est-à-dire jusque à l'extermination proprement dite, Olivier Rollin.
Oui, en effet, c'est un passage qu'on peut trouver choquant, que moi je trouve qu'il est au contraire, qu'il est d'une Il est d'une grande beauté. Oui, enfin, très, très atrocement précis et très, enfin, avec une portée, voilà, spirituelle, très grande. Enfin, je ne connais pas d'autres œuvres romanesques, il y en a peut-être, qui se soient hasardées à aller jusque-là, jusqu'à ce lieu de l'extermination, jusqu'à ces derniers moments de l'extermination, mais, c'est un centre noir du livre qui, à mon avis, est... Enfin, que, voilà, achève de lui donner toute sa très, très, très violente gravité, quoi.
Gaëlle Passet.
Ouais, moi, ça me choque un peu, effectivement, c'est-à-dire que beaucoup de choses sont basées sur des expériences réelles, beaucoup de personnages, de conversations que Vassily Grossman a eues dans la vraie vie. Il a parlé avec des gens qui revenaient du goulag au moment du dégel. Ça l'a évidemment plus qu'inspiré. Enfin, il a une source de documentation directe de choses vécues par les autres ou de choses qu'il a lui-même vécues en étant journaliste pour l'Étoile Rouge. Mais là, son hubris de romancier dépasse un peu les bornes. En ce qui me concerne, moi, j'ai une petite réticence là-dessus. Je me serais arrêtée là où il faut.
Alors, j'aimerais pour conclure qu'on dise deux mots quand même sur vie et destin. Qu'est-ce que ça veut dire que cette différence entre vie et destin? C'est toujours ce qui m'intrigue. C'est vie et destin ou vie ou destin en russe, jizn et subda. Qu'est-ce que ça veut dire exactement qu'opposer les deux? C'est-à-dire, est-ce que la vie c'est le destin? Quelle différence il y a en fait entre une vie et un destin, Luba Jorgensen?
Alors, je voudrais simplement réagir à ce qui vient d'être dit à propos de ce passage dans la chambre à gaz, qui effectivement, nous qui avons vu Shoah et intériorisé la vision de Claude Lanzmann, parfois, peut nous choquer. Mais je voulais dire surtout que pour Grossman, en fait, ces personnages, et ça c'est une très grande différence par rapport au roman du réalisme socialiste, ces personnages se réalisent au moment de la mort. Et ça c'est déjà vrai pour Une juste cause. C'est au moment de la mort qu'ils réalisent leur rêve le plus profond. Et finalement, il ne fait pas la différence entre les autres morts et celle dans la chambre à gaz, où son personnage de Sophia, qui est une vieille fille, devient mère dans son imaginaire, dans ses derniers instants, en serrant contre elle un enfant. Mais et chose très importante, Grossman fait une erreur historique dans ce passage, parce que il pense alors que ce sont les membres des Sonderkommando, c'est-à-dire les juifs que les nazis obligés à travailler dans les chambres à gaz, et ils pensent que c'est eux qui jettent le cyclone B, hein, le gaz qui tue, alors que, évidemment, eux ne font que sortir les cadavres de la chambre à gaz, etc. Mais ils ne participent pas directement à l'extermination. Quant à Vie et Destin, oui, c'est un titre qui semble prétendre à l'universalité. Et c'est un peu comme Guerre et Paix, encore une fois. Il y a cette tradition du titre en deux mots dans la littérature russe, Crime et Châtiment, Guerre et Paix. Vie et Destin, ben c'est... oui, c'est aussi l'idée de faire de sa vie un destin, hein, qui, encore une fois, situe Grossman dans le sillage à la fois de la grande littérature russe du 19e, mais aussi dans la modernité.
Olivier Rollin sur vie et destin, pour conclure, deux mots.
Oui, bien moi, c'est un titre un peu, oui, dont on peut avoir beaucoup d'interprétations, mais ce que je vois plutôt, c'est vie, c'est la, justement, c'est l'individu, c'est la résistance éventuelle de l'individu face à la puissance de l'État, c'est la lâcheté aussi, c'est l'amour de la liberté. Enfin bref, ce sont les vies individuelles qui sont si, encore une fois, si merveilleusement décrites dans ce livre. Et Soudba, enfin le destin, eh bien, c'est peut-être l'histoire millénaire du despotisme russe, de l'écrasement de l'individu justement face à l'État, etc. Donc d'un côté il y a l'aspiration à la liberté, et puis de l'autre côté il y a le destin qui broie. Autrefois, j'avais fait avec une réalisatrice un documentaire sur la bibliothèque d'un camp, sur le camp des îles Solovki. Et je me souviens, il y a une vieille paysanne qui dit, qui raconte l'extermination de sa famille, enfin la déportation de sa famille, etc., qui dit à la fin, et à Soudba, c'est le destin. Voilà, le destin, c'est ce qui va contre la liberté. Enfin, dans mon interprétation.
Yael Paché.
Oui, très rapidement sur cette scène dont je dis que je l'aime pas tant que ça, mais il y a quand même un détail intéressant. Il a fait des études de physique. Il parle de moment où les Juifs rentrent dans la chambre à gaz du mouvement brownien, tiré de la théorie de Robert Brown, et ça relie tout passe, c'est-à-dire Lucrèce, De Natura Rerum. Les corps tombent, on tombe, mais quelque chose que Aristote appelait le clinamen fait que il y a des coups de coude, le chemin tracé par un corps qui tombe va subir une légère distorsion. Et donc, il y a ces coups de coude. Il parle de ce mouvement brownien. C'est un endroit entre les individus et le collectif où finalement tous ces petits électrons se heurtent les uns les autres selon une loi, un principe qui est celui de l'indétermination pure.
Merci beaucoup Yael Paché, merci Olivier Rollin, merci Luba Jorgensen de nous avoir accompagnés dans cette émission consacrée à Vie et Destin de Vassili Grossman, réalisée par Laure-Hélène Planchet avec Inès De Bruyne à la technique aujourd'hui. Un immense merci à Pierre Chabert qui m'a aidé à la préparer. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour notre quatrième station dans les romans qui ont changé le monde, consacrée à La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin. À demain.